dernier effort avant la pause. Alors, je vais plus directement à l'essentiel en disant que le Concile a donné trois critères qui caractérisent une interprétation de l'Écriture conforme à l'Esprit Saint qui l'a inspiré. Pourquoi ? C'est pour que nous puissions lire la parole de Dieu sans avoir peur de tomber dans l'illusion en voyant une parole qui nous serait adressée alors qu'elle ne le serait pas. Comment savoir si telle ou telle parole nous concerne? Alors les trois critères indiqués par le Concile, c'est porter une grande attention au contenu et à l'unité de toute l'Écriture. Le deuxième, c'est lire l'Écriture dans la tradition vivante de toute l'Église. Et on en a un peu parlé de la vie, Charles a souligné là, cet aspect vivant, parce que l'Église porte la parole de Dieu davantage dans son cœur, par des saints et des saintes, par des croyants qui en vivent, que dans des textes ou des collections de livres savants. Et le troisième critère, être attentif à l'analogie de la foi, autrement dit à la cohérence des vérités de la foi entre elles. Ce dont je dois vous parler, c'est correspondre davantage au deuxième critère, lire l'Écriture dans la tradition vivante de toute l'Église, lire la Bible à l'aide des pères et des saints. Tout cet héritage avant nous qui nous indique la route. Alors, tout d'abord, le fondement. Ensuite, quand même, je dis les grandes parties parce que ça aide à fixer l'attention, la distinction entre le sens littéral et le sens spirituel, et ensuite plusieurs sens spirituels. Donc, d'abord, le fondement, c'est Jésus lui-même, le premier exégète. Alors, je vous donne simplement un passage auquel vous pouvez vous référer. Dans le chapitre 24 de Saint Luc, Jésus vient voir les disciples d'Emmaüs, marche avec eux, et de fait, il leur explique l'Écriture. Il leur explique ce qui, dans l'Écriture, le concernait. Les disciples ont le cœur tout brûlant, ils reviennent à Jérusalem, et là, de nouveau, Jésus apparaît aux 11 apôtres, et de nouveau, il leur explique dans les Écritures ce qui le concernait. Donc, vous pourrez voir, Saint Luc insiste beaucoup là-dessus. Et cela a permis aux apôtres de comprendre l'insoutenable mystère de l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, mort sur une croix. Comment pouvait-il imaginer auparavant un tel scandale? Il a fallu l'action de Jésus lui-même, la persuasion même, l'évidence qu'il a imposée à leurs esprits incrédules pour saisir l'extrême miséricorde et l'amour fou de Dieu pour nous, au point de livrer son Fils unique. On le voit aussi dans la vie de Saint Paul. Saint Paul, comme être forcé par Jésus, croire que Jésus était vivant, qu'il était vraiment le Christ, et ensuite, il a approfondi l'Écriture et il a découvert que vraiment Jésus était le Messie. Mais il a fallu qu'il soit forcé, ce n'était pas évident. Après Jésus, il y a les apôtres, et nous voyons Saint-Pierre, seulement 7 semaines plus tard, annoncer le jour de la Pentecôte, le salut par la croix du Christ ressuscité, et il le fait en citant l'Écriture. Vous pourrez voir ici le psaume 15, le psaume 109, les prophéties de Joël. On voit les autres apôtres faire pareil, et puis ceux qui ont suivi les apôtres, donc Barnabé, Étienne, Philippe, Paul, Apollos, etc. Un exemple intéressant aussi, c'est l'évangile de Saint Matthieu. Il fait des petits passages racontant la vie de Jésus, et chaque partie se termine par « Ainsi s'accomplissait telle écriture ». Les pères héritent de ce qu'ont dit les apôtres, et pour eux, Jésus est donc la clé d'interprétation de l'Écriture, comme il l'a fait comprendre à ses apôtres. Et l'interprétation des Écritures par Jésus lui-même est le fondement de la tradition des apôtres. Donc pourquoi on lit l'Écriture avec les pères de l'Église? C'est parce qu'à travers eux, on entend Jésus qui continue à nous expliquer l'Écriture. De cette manière de lire l'Écriture, les pères ont hérité une méthode, une clé, donc, qui permet de présenter Jésus comme accomplissement de l'Écriture. Mais pour cela, il faut approfondir. Donc les pères nous présentent cet approfondissement en nous montrant que Jésus accomplit les oracles prophétiques, il aussi des figures. Alors, donc, un exemple de figure, Isaac, le fils d'Abraham, il va, à la demande de Dieu, Abraham le conduit pour l'offrir en sacrifice, et Isaac est une figure de Jésus. Alors, les pères soulignent, par exemple, certains détails, Isaac portait lui-même le bois du sacrifice, et Jésus a porté lui-même le bois de la croix. Alors, tous ces petits détails, si vous lisez le texte, vous passez dessus sans trop les voir, mais les pères de l'Église le soulignent beaucoup. Et évidemment, ça aide à comprendre ensuite ce sens spirituel. Alors, je voulais vous donner un exemple qui est dans le couloir d'entrée, c'est celui du bon samaritain, donc qui se trouve providentiellement dans l'évangile de ce jour. Et les architectes du Moyen-Âge, les ouvriers, donc, ont inscrit le message des pères de l'Église dans nos cathédrales. Donc là, c'est un exemple qui est particulièrement lumineux. Il y a trois motifs principaux. Tout en haut, l'homme qui tombe au pouvoir des brigands. En dessous, le prêtre et le lévite qui passent à côté sans s'en occuper. Et en dessous, le bon samaritain qui s'en occupe, qui le conduit à l'auberge. Et autour de ces trois motifs principaux, il y a un parallèle avec l'action de Dieu. Donc, d'abord, le pouvoir qui tombe au pouvoir, l'homme, pardon, qui tombe au pouvoir des brigands, ça a été expliqué dans l'homélie ce matin, donc c'est l'homme, Adam et Ève, qui commettent le péché originel et qui font tomber l'humanité au pouvoir du mal, au pouvoir des démons. Dans le deuxième, on voit la vie de Moïse, donc Moïse qui reçoit la loi de Dieu, et cette loi, elle est bonne, mais elle n'arrive pas à nous sauver. Donc c'est une certaine impuissance. Et en dessous, on voit la passion de Jésus et sa résurrection. Et c'est Jésus qui est le véritable bon samaritain, qui prend soin des hommes, qui le confie à l'Église et qui donc nous apporte le salut. De cet approfondissement avec l'aide de l'Esprit Saint, les pères, sont témoins qu'il faut une recherche non seulement du sens littéral, mais surtout du sens spirituel qui va plus loin que les événements racontés. Donc on le voit par exemple avec ce bon samaritain. Si vous regardez juste ce qui est apparent, vous voyez une belle histoire qui est une leçon, mais avec le sens spirituel, on voit que c'est Jésus qui est le véritable bon samaritain. Donc je résume encore, mais vous aurez l'occasion de l'approfondir encore. Les pères de l'Église ont défini plusieurs sens spirituels. Alors, il y a celui qui concerne le Christ, il y a celui qui d'habitude nous concerne nous, et le sens qui concerne la fin des temps, donc l'eschatologie. Donc avec le sens spirituel, littéral, pardon, ça en fait donc quatre, qui sont quatre sens possibles, parce que ce n'est pas automatique que tout texte ait ces quatre sens. Il y a un bel exemple donner, c'est celui de Saint Bernard, qui donnait un enseignement théologique, de morale, de spiritualité à partir de l'Écriture, et qui le faisait en particulier avec le Cantique des Cantiques, qui est donc un sommet de la Bible. Alors, pour résumer, on peut dire que ce Cantique peut, dans l'Ancien Testament, il est regardé comme l'amour de Dieu pour son peuple, et là c'est le sens littéral. Pas le regarder avec un sens grossier, mais ce sens, c'est l'amour de Dieu pour son peuple. Appliqué à Jésus, c'est l'amour de Jésus pour son Église. Et puis, on peut le voir aussi par rapport à toute âme appelée à entrer dans une relation d'amour avec Jésus. Et enfin, on peut le voir avec cette grande vision de la fin des temps qui sera les noces de Jésus avec l'humanité. Pour ceux qui aiment Saint-Louis-Marie, il faut savoir que son traité de la vraie dévotion est pétri de l'enseignement des pères de l'Église. Donc il présente ce qu'ont dit les pères de l'Église au sujet de la Vierge Marie, mais si vous regardez bien, ce n'est pas le sens littéral, ce sont des sens spirituels. Donc ça demande un éclairage plus profond. Il y a aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est plus proche de nous. On voit en elle qu'elle approfondit par exemple la proximité de Dieu comme Père. Alors tous les saints, avant-elle, parlaient bien de Dieu comme Père. Mais tous les hommes et les femmes du monde entier qui ont été impressionnés, impressionné par ce message de cette petite religieuse, eh bien, vont dire qu'il y a quelque chose de plus. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint continue à guider l'Église, et dans le cœur de tout homme, de toute femme, même qu'il ne soit pas un grand savant ou grand spécialiste, eh bien, il essaye de donner davantage encore pour guider l'Église, pour qu'en elle soient accomplies pleinement les paroles de Dieu. Alors, je trouve que c'est enthousiasmant de voir qu'il y a encore cette progression, que Dieu continue à nous parler, et que chacun, chacune de vous, doit participer à ce mouvement, c'est-à-dire cette progression. Alors, je termine par deux moyens concrets. Il y a, dans la liturgie d'Église, un livre qu'on peut lire tous les jours, qui s'appelle le Livre des Jours, qu'on lit, nous, à l'Office des Lectures, qu'on appelle aussi l'Office des Matines. Alors, ce livre, qui n'est pas réservé aux religieux ou aux prêtres, vous pouvez le trouver facilement. Il propose deux lectures par jour, une de la Bible et une d'un père de l'Église ou d'un saint. Et puis, un autre moyen, c'est celui des psaumes. Donc, on pourrait dire que c'est comme une autoroute de la spiritualité. Beaucoup ont pris les psaumes avant nous. Ce n'est pas facile d'y entrer, mais on peut essayer de les lire en se disant comment Jésus a pu les appliquer à lui-même et comment nous pouvons essayer de les appliquer pour nous. Alors souvent les psaumes même qui concernent Jésus et nous, et pas seulement Jésus et pas seulement nous, mais Jésus qui veut nous unir à lui, qui prie en notre nom. Voilà ce qui me semble important, et je termine en citant une phrase qui m'a impressionné, en approfondissant justement cette force de la parole de Dieu, qui se trouve dans une épître de saint Paul, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Donc, saint Paul parle du voile que Moïse se mettait sur le visage lorsqu'il venait d'avoir vu Dieu. Et il dit, ce voile demeure encore pour les Juifs qui ne voient pas que Jésus est le Christ, qui pourtant était annoncé par les prophéties. Et l'épître de saint Paul est appliquée aussi aux chrétiens, c'est-à-dire que quand on parle du Christ, quand on annonce l'Évangile, quand on donne une parole de Dieu, nous ne voyons pas toujours sa force. Pourquoi? Parce que est-ce que ça vient parce que la parole de Dieu n'est pas assez claire? Eh bien, saint Paul dit non. C'est parce que nous avons nous aussi un voile. C'est pour ça que la parole de Dieu ne nous parle pas assez. C'est parce que nous ne l'écoutons pas vraiment. Et alors il dit, c'est quand on se convertit au Seigneur que le voile tombe. Alors je trouve que c'est un magnifique encouragement à essayer de toujours davantage se convertir pour que ce voile tombe et que nous puissions comprendre la parole de Dieu.